découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Aujourd'hui, nous recevrons Michel Claise, qui est à la fois écrivain, avocat honoraire et juge d'instruction. Mais nous parlerons également de la Shoah, puisque la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera la journée internationale de mémoire de la Shoah. Alors je vous rappellerai que le 18 janvier 2007, le président français Jacques Chirac a rendu hommage aux 2725 justes de France. Que le 17 janvier 1945, Raoul Wallenberg fut arrêté par des soldats russes. Qu'Agnès Keleti a célébré son 100e anniversaire. L'ancienne gymnaste hongroise est la plus vieille championne olympique encore en vie. Et pas n'importe quelle championne olympique, pas n'importe quelle femme non plus. Survivante de la Shoah, elle a ensuite fui le régime soviétique pour s'exiler en Israël. Donc, retour sur une vie hors norme. Je vous parlerai de la juste française Odile Duberger, sauveuse de la famille Polnareff, donc du chanteur Michel Polnareff. Elle vient de décéder. Le Congrès juif mondial a attribué le prix Théodore Herzl au chef de l'ONU. Le Portugal a ouvert le 20 janvier son premier musée de la Shoah dans la ville de Porto, la deuxième plus grande ville du pays. Et on parlera collaboration et espionnage avec le passé nazi de Coco Chanel. Mais tout de suite, nous retrouvons bien sûr notre invité. En effet, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un homme qui dispose de plusieurs casquettes, à la fois écrivain, avocat honoraire et juge d'instruction, spécialisé dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, récipiendaire de plusieurs prix littéraires. Michel Claise, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de prendre de votre précieux temps pour participer à cette émission. Alors, votre dernier livre avec la jolie couverture inspirée, selon moi, du peintre Edouard Hooper des années 60.
Les années 60, le thème de ce roman, oui.
Voilà. Alors, Les années d'or, salle des pas perdus, qui clôt une trilogie. Les années paix et les années d'or, je les ai tous lus. Avec le dernier, j'avais l'impression, Michel Claise, de retrouver quelque part ma famille. Je retrouve les mêmes personnages qui ont un petit peu vieilli. Autour du café Le Vieux Scarbec, une belle brochette de personnages, des héros et aussi... aujourd'hui, dans ce dernier livre, quelques salauds, le reflet de la société, puis vos romans sont une belle piqûre de rappel historique. Il s'en est en effet passé des choses en Belgique. Alors Michel Claise, est-ce la nostalgie de ces années qui vous a inspiré donc d'écrire tous ces livres ?
Ah, nostalgie, mais j'étais encore fort jeune dans les années 60, quoique ce sont les premiers souvenirs qui apparaissent, puisque je suis né en 1956, et donc comme enfant, j'avais préadolescent, les premiers souvenirs apparaissaient, mais je me souviens quand même, il y a des images qui restent de toute une série de choses, donc c'est-à-dire la voiture familiale, la technologie dans les cuisines, il y a des petits événements comme ça, et bien entendu des grands événements politiques. Très curieusement, tout le monde était atterré, on écoutait la radio, quand on a appris l'assassinat du président Kennedy. Et bon, j'avais beau être très très jeune, mais je me suis rendu compte qu'il venait de se produire quelque chose de très important. Et ça m'est resté. Comme de la même manière, dans le livre, je raconte l'incendie d'Innovation, mais je l'ai vu. Donc en réalité, d'où nous étions, là où je vivais, dans la boulangerie de mes grands-parents, eh bien nous voyions cet incendie terrible et les nouvelles qui arrivaient. Et cela m'avait profondément marqué, puisqu'une femme très très proche de notre famille n'a jamais réapparu. Et tout le monde pense effectivement qu'elle est décédée dans cet incendie.
Et puis plein d'autres événements politiques.
Énormément d'événements politiques.
Des grandes grèves.
Oui, j'aime l'histoire de Belgique parce que c'est la réflexion de tous les thèmes mondiaux et universels. Hein. Donc tout ce que nous vivons, eh bien, ça concerne évidemment la planète entière. Et ce sont des événements sociaux très importants, très très durs, parce que c'était encore l'époque des grèves et des manifestations où les gens mouraient sous les balles des gendarmes. Il y a aussi pour moi une chose à laquelle je suis extrêmement sensible dans les réflexions thématiques, c'est l'extrême droite en Belgique, et se traduit par le nationalisme flamingan.
Encore aujourd'hui, puisque le Parlement flamand vient de glorifier indirectement d'anciens collaborateurs nazis, et qui s'en émeut vraiment ?
Qui s'en émeut vraiment ?
Point d'interrogation.
Mais moi je fais partie de ceux qui s'en émeuvent. Et je trouve que parler de ce qui s'est passé, comprendre la montée de ce nationalisme qui fait suite aux années-guerres, c'est tenter de montrer aujourd'hui que non seulement rien n'a changé, mais j'ai le sentiment que tout s'est aggravé. Et puis d'autres thèmes encore, comme l'immigration, puisque c'est dans les années 60 que l'accueil, notamment de l'immigration marocaine, s'est fait, avec ses réussites et ses échecs. Des échecs dont nous payons aujourd'hui aussi très lourdement les conséquences. D'autres thématiques abordées, évidemment très très graves pour la ville de Bruxelles, mais qui aussi dans une thématique tout à fait courante, c'est la corruption publique qui a entraîné la destruction du tissu urbain bruxellois, au point que la destruction de ce tissu urbain, qu'on a appelé la bruxellisation, est un terme qui est utilisé dans les cours d'architecture dans le monde entier.
Non.
À l'époque, c'était tout le quartier nord qui avait été rasé pour faire le fameux, les grands buildings tout à fait que nous connaissons, et avec une mise en évidence de corrompus politiques et d'entrepreneurs. Voilà, donc vous voyez que les choses finalement évoluent, mais ne changent guère.
Oui, parce qu'il y a les grands piétonniers en ville qui sont forts. Critiqué finalement. Ça partait peut-être d'une bonne intention.
Ça partait sans doute d'une bonne intention, mais pour l'instant, je pense que c'est une catastrophe. Et mes amis commerçants du centre-ville, ils ferment les uns après les autres parce que l'accès n'est plus possible. Et voilà, c'est donc.
Est-ce qu'on peut aussi revenir en arrière ? C'est la question.
C'est une question d'ordre politique.
Oui, c'est ça. Alors, dans votre dernier livre, un de vos personnages, enfin pas seulement dans le dernier livre, il est présent partout, hein, Simon.
Depuis le début,
début. Qui est avocat et qui est rescapé de la Shoah.
Tout jeune enfant dans les années-guerre, qui effectivement va être déporté et qui va être survivant, contrairement à ses parents. C'est toute la réflexion qui s'ensuit, parce que il y a une multitude de réflexions autour de la Shoah et de toutes les Shoahs. C'est comment cela est-il possible ? Comment est-ce que l'homme en lui-même est capable d'une chose pareille ? Mais aussi l'approche de ceux qui vont s'en sortir. Et toute cette culpabilité que l'on retrouve. Moi, je pense que Boris Cyrulnik avait écrit un livre extraordinaire sur la résilience et la difficulté de la résilience pour les rescapés qui, d'une certaine manière, se culpabilisent d'avoir échappé à cet horrible massacre. Et raconter pour moi le suivi, d'ailleurs, il s'appelle Simon et que c'est un rescapé de la Shoah et qu'il est avocat, mais c'est évidemment un grand clin d'œil, un Simon que nous connaissons tous et que nous adorons. Et voilà. Et donc c'était une manière pour moi d'aller plus loin, parce que...
Oui, ça veut dire que cette histoire vous interpelle quand même.
Terriblement. J'ai connu tous les récits de mes grands-parents dans ce quartier de la guerre du Midi, qui était le quartier juif à l'époque, et comment eux ont aidé la communauté juive à l'époque. Et donc ça m'avait toujours, jeune, enfant, marqué profondément. Et puis après, en arrivant à la réflexion et au développement des valeurs individuelles, partir toujours de ce principe en disant que ignorer l'histoire, c'est accepter qu'elle revienne, eh bien, nous ne pouvons pas ignorer l'histoire. Nous devons tout faire, bien entendu, pour poursuivre le souvenir, la mémoire, et bien entendu éviter que cela ne puisse se reproduire. Mais quand je suis terriblement catastrophé, quand je vois les montées des nationalismes en Europe, je parle évidemment du nationalisme flamingan, mais les nationalismes en Europe sont en pleine résurgence.
Tout à fait.
Si nous connaissons chez nous, disons plutôt une espèce d'agressivité à l'égard des émigrés, comme on dit, mais les nationalismes, que ce soit polonais ou hongrois, continuent à se retourner contre la communauté juive. Qu'est-ce qui se passe dans la tête
des
gens ?
Mais les réseaux sociaux n'aident pas.
Ah non, ça chère
Michel Clerc.
Ah, les réseaux sociaux, c'est à la fois
ça
le juge et le bourreau. Hein, oui.
Oui.
C'est épouvantable. Oui,
c'est un rôle d'amplificateur.
Absolument. C'est un phénomène qui n'est pas maîtrisable.
Vous pensez qu'il n'est pas maîtrisable ?
À moins de couper Internet, non, je ne pense pas.
Oui, ça... Enfin, on parle de la Shoah parce que, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, le 27 janvier, ce sera la Journée internationale de la mémoire de la Shoah, qui a été décidée par l'ONU en 2005. Et le 27 janvier, c'était aussi le jour de la libération du camp d'Auschwitz. Donc, c'est pour ça que cette date a été choisie. Bah écoutez, le peuple juif ne baisse pas la tête. C'est pas toujours facile de vivre comme ça, surtout quand on voit, par exemple, moi j'ai mes petits-enfants dans une école juive avenue Molière à Bétaville, et quand on voit qu'ils doivent être gardés comme s'il y avait une insurrection qui allait se avec des soldats en armes. Voilà.
Mon filleul, qui a 11 ans, est à Galénou, donc je connais très bien le problème.
Ah, ben voilà.
Il joue au football, évidemment, et au Maccabi, forcément. Et puis, voilà, nous connaissons effectivement tous ces... ce que certains considèrent comme des tracas et d'autres comme, évidemment, des épreuves. C'est cette organisation de vie en permanence, oui, bien sûr.
Oui, c'est comme ça. Alors, Michel Schlez, vous avez une belle carrière, quand même. Déjà un long chemin, jonché de souvenirs. Alors, si vous deviez en sélectionner, lesquels choisiriez-vous ? Je vous avais parlé hors antenne de l'affaire qui défrait la chronique maintenant.
Oui.
Voilà.
Oui, Nettis, voilà.
C'est...
Disons qu'il y a quelques événements qui se passent à Liège pour l'instant, effectivement, dans les matières que je traite, mais je ne suis pas charge de ce dossier qui est liégeois. Effectivement, c'est intéressant. Mais si je fais un regard en arrière sur le plan carrière, à proprement parler, mais j'ai autant apprécié ma carrière d'avocat que ma carrière de magistrat. Comme avocat, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. J'étais président de la conférence du jeune barreau, membre du conseil de l'ordre. Donc j'ai vraiment vécu intensément cette profession d'avocat et qui marchait très très bien. Et puis voilà, il y a eu mon ex-épouse qui m'avait inscrit à l'examen de la magistrature, que j'ai réussi. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, eh bien, pourquoi ne pas épouser une deuxième carrière et devenir magistrat ? Je ne m'attendais évidemment pas du tout à me retrouver juge d'instruction en matière financière, puisque dans le passé, le droit pénal n'était pas tant ma tasse de thé. Mais ça s'est très vite arrangé, hein, une bonne formation. Et alors, ce que je retiendrai surtout, ce sont les gens. Je dirais que la réussite de cette double carrière, pour moi, tient toujours à la rencontre des personnes, de l'enrichissement de ces rencontres. Et plus particulièrement, comme juge d'instruction, j'ai des collègues auxquels je tiens énormément, mais aussi les policiers. Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la police avec les problèmes. Moi, je vous parle de mes policiers, de mes enquêteurs, qui sont pour la plupart d'ailleurs universitaires, qui sont des gens qui sont profondément humanistes, des gens extrêmement intelligents, et qui sont, comme moi, assez têtus. Et donc, ça c'est extraordinaire parce que nous avons appris à entretenir aussi des relations professionnelles, doublées aussi de convivialité. Vous vous rendez bien compte, quand vous passez une mission de 8 jours au Pakistan avec 2 policiers, vous n'en sortez pas comme cela sans avoir une considération les uns pour les autres qui restera ad vitam. Il y a un avant et un après et ad vitam. C'est pour donner un exemple de sensibilité commune parce que une mission comme ça.
Oui, parce que c'est vrai dur, qu'à la télévision, on met souvent l'accent sur la brutalité, la violence de certains policiers.
De certains policiers.
Du racisme de certains,
policiers.
Donc on peut
faire
des amalgames.
Il n'y a jamais de généralité, il n'y a que des cas individuels.
Oui, mais
bien sûr.
Je ne sais pas si le public...
Il faut le marteler.
...fait la différence. Alors Michel Schlez, est-ce que vous pourriez choisir entre la justice ou la littérature, si vous deviez refaire votre vie à l'envers?
C'est très facile. C'est la justice, évidemment. C'est mon métier, ce sont mes études, c'est ma formation. Et il est vrai que je souffre peut-être d'un diplôme rentré, parce que j'ai toujours été très attiré par l'histoire et la philologie. Et donc, mais en ayant fait des études de droit, là, sans contestation possible, c'est
aucun
évidemment
regret.
Le métier juridique. Oui. Et la littérature est quelque chose qui m'apporte un plus. C'est une... j'avais un jour utilisé le mot, c'est presque une thérapie, mais ça va au-delà. C'est une harmonie. Parce que... il faut imaginer qu'un jour, après avoir pondu un manuscrit, et 10 ans plus tard, que le hasard fait que je rencontre un éditeur, que cet éditeur me dise « Mais je vais vous publier !» J'ai « Ah, bon sang !» Alors, la grande émotion de cela, c'est quand on apporte la caisse avec les livres, on cherche désespérément quelque chose pour ouvrir cette bande adhésive, on l'ouvre et on prend l'objet en main, et qui est le livre qui s'appelait à l'époque « Salle des pas perdus », donc le premier tome de la trilogie. C'est une naissance. C'est pas une jouissance, c'est une naissance. On a l'impression d'avoir presque un enfant, et ça, c'est extraordinaire.
Alors, question évidemment, est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite à tous ces livres ?
Ah, je continue, donc c'est mon 12e, hein, finalement.
Oui, oui, vous
et donc,
avez quelque chose, un projet.
Oui, j'ai un projet qui n'est pas la suite de celui-ci. Donc j'aime toujours laisser passer un peu de temps entre la thématique de Salle des pas perdus, donc les années-guerres et les années-paix viennent de sortir en poche. Ce qui, évidemment, moi, ça me fait vraiment fort plaisir. Et donc, ils sont à peine sortis, ils ont reconnu un succès. Et donc maintenant, après les années d'or qui marchent très très bien, j'en suis ravi, je vais sans doute aborder un jour les années de plomb, hein, ce sont les années 70 avec le terrorisme d'Action Directe, CCC, etc. Et la grande crise économique du pétrole et tout, c'est extrêmement passionnant en thème universel encore. Et mais là je vais peut-être m'attacher, j'ai l'idée d'un polar, parce que de temps en temps, il m'arrive d'écrire un polar.
Oui,
un polar qui touche quand même très fort à mon corps business de juge d'instruction, et qui ne se passera pas du tout ni en Belgique ni en Europe. Mais je voudrais vraiment attaquer de plein front ce qu'on appelle les mafias, mais au sens véritablement des mafias traditionnelles comme la Cosa Nostra et les triades chinoises qui aujourd'hui dans le monde, nous le constatons, se sont parfaitement entendues pour commettre une série de méfaits.
Oui, d'ailleurs, il y a eu un grand procès en Italie.
À la Drangheta actuellement, vous avez plus de 300 personnes poursuivies. Et c'est à ce moment-là que nous apprenons, enfin nous le savions déjà évidemment, mais que sans doute que les mafias occupent en Italie les reines occupent, mais véritablement le pouvoir financier. On estime que rien que la Drangheta représente 50 milliards par an de produits de leurs rackets, trafic et autres. Vous imaginez l'impact sur une économie, c'est effrayant. Effrayant. Il faut mettre ça en évidence et de manière permanente. Mais ça, je le fais très régulièrement dans les conférences et dans les cours que je dispense, que je prodigue. Et on ne tape pas assez sur le clou, et c'est vrai que je suis parfois un peu sévère avec le gouvernement, notre gouvernement actuel, où j'estime que celui-ci ne prend pas véritablement en considération l'immensité du phénomène de la criminalité financière. J'inclus la fraude fiscale, mais c'est un petit élément, parce qu'actuellement ils mettent en avant leur combat contre la fraude fiscale, mais qui est, à mon sens, un peu beaucoup de bavardage et peu d'action. Mais la criminalité financière, c'est notamment le trafic de drogue, c'est 500 milliards de dollars par an dans le monde entier de produits détectés. Donc c'est une économie en soi qui tous les ans se répète et qui font que les organisations criminelles que je viens de citer ont pris, à mon sens, véritablement le pouvoir presque politique du monde.
Merci Michel Claise, juge d'instruction, d'avoir participé à cette émission. Et je suis certaine qu'on se reverra. En tout cas, sachez que vous êtes toujours le bienvenu sur les ondes Radio Judaïka. Ce fut un plaisir, cher Michel Claise. À très bientôt. Et voilà, chers auditeurs, alors je vous propose un petit morceau de musique. Je vais raccompagner mon invité. Et puis nous parlerons des bonnes nouvelles d'Israël, du monde juif et du Proche-Orient.
שוקולד שאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד נכון שהוא ממני
c'était Sarit Haddad. Il y a 14 ans, le 18 janvier 2007, le président de la République française, M. Jacques Chirac, rendait pour la première fois un hommage de la nation aux Justes de France, ces Français qui, au péril de leur vie, ont sauvé des milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le lui a proposé un an plus tôt Simone Weil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le président Jacques Chirac a fait entrer au Panthéon ces femmes et ces hommes nommés Justes parmi les nations ou restés anonymes à qui les Juifs doivent la vie au nom de la France avec respect. Dans un discours prononcé au Panthéon le jeudi 18 janvier 2007, le président de la République française a rendu hommage aux Justes, ces Français qui ont sauvé de la déportation des Juifs que le pouvoir de Vichy livrait aux nazis. Vous, Justes de France, vous avez transmis à la nation un message essentiel pour aujourd'hui et pour demain, le combat pour la tolérance et la fraternité contre l'antisémitisme, les discriminations, le racisme, tous les racismes, est un combat toujours recommencé et au nom de la France, au nom de la nation tout entière, je m'incline aujourd'hui devant vous avec respect et reconnaissance. Le texte de la plaque en l'honneur des Justes est le suivant. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommées Justes parmi les nations ou restées anonymes, des femmes et des hommes de toute origine et de toute condition ont sauvé des Juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Et le 17 janvier 1945, Raoul Wallenberg fut arrêté par des soldats russes. Ce diplomate suédois a lui aussi sauvé des dizaines de milliers de Juifs de la Shoah en les plaçant sous protection de la couronne suédoise. Il a donc été fait juste parmi les nations. Il est né en 1912 dans une famille aristocratique de banquiers. Après l'invasion de la Hongrie, le 19 mars 1944, la légation suédoise lança une opération de sauvetage afin d'empêcher la déportation des Juifs vers les camps d'extermination. La légation suédoise à Budapest fit face à une pression énorme en raison du très grand nombre de Juifs qui sollicitaient une protection sous la forme d'un passeport ou d'un visa. Elle demanda la nomination d'un envoyé spécial dont la tâche principale serait de gérer les passeports. Raoul Wallenberg fut nommé premier secrétaire à l'ambassade de Suède à Budapest avec tous les privilèges diplomatiques. Wallenberg arriva dans la capitale hongroise le 9 juillet 1944 avec la liste des Juifs qu'il devait aider et 650 passeports de protection destinés aux Juifs ayant des liens avec la Suède. Toutefois, il ne se limita pas à cela. Il commença à délivrer des milliers de sauf-conduits et à acheter des bâtiments qu'il faisait recouvrir du drapeau suédois et transformait ainsi en îlots extraterritoriaux où il abritait des Juifs pour mieux les protéger. Le sauf-conduit, il faut le savoir, autorisait son titulaire à se rendre en Suède ou dans n'importe quel autre pays représenté par la Suède. Près de 4500 juifs possédaient un document de ce type qui les protégeait de la menace des travaux forcés et les dispensait de porter l'étoile jaune. En octobre 1944, la situation se détériora brusquement à Budapest. Le parti fasciste des Croix Fléchées s'empara du pouvoir et mit en place un régime basé sur la terreur. Des Juifs étaient abattus en pleine rue, d'autres traînés jusqu'au Danube, puis exécutés ou noyés carrément dans l'eau glaciale du fleuve. Étant donné la gravité de la situation, il commença à délivrer des sauf-conduits sans distinction, en grand nombre, et fit placer 32 bâtiments ainsi que 2 hôpitaux et une soupe populaire sous la protection de la Suède. Raoul Wallenberg eut recours à des méthodes peu conventionnelles, incluant corruption et chantage, afin de financer et de faire fonctionner cette gigantesque opération de sauvetage. Le régime des Croix Fléchées ayant été instauré, Adolf Eichmann revint à Budapest le 17 octobre 1944 et ordonna immédiatement la déportation des Juifs de la ville. Les sauf-conduits constituaient une entrave, mais le régime des Croix Fléchées ne se souciait guère des questions de légalité et de documents officiels. Adolf Eichmann ordonna une marche de labeur de dizaines de milliers de personnes jusqu'à la frontière autrichienne. Raoul Wallenberg et les représentants d'autres pays neutres suivirent les marcheurs à bord de leurs véhicules, leur distribuant nourriture, vêtements et médicaments. Ils parvinrent ainsi à arracher de nombreux Juifs à cette marche de la mort en affirmant qu'ils faisaient partie de ces protégés juifs et continuaient à distribuer des laissez-passer même sous la menace. Les méthodes audacieuses de Wallenberg lui firent courir, bien sûr, de graves dangers, mais jamais il n'envisagea de mettre un terme à ses activités. Il demeura à Budapest avec ses protégés juifs pendant le siège de la ville par les soviétiques et menaça le commandant allemand et le chef des Croix Fléchées afin de leur faire renoncer à leur projet de s'attaquer aux juifs encore présents. J'ai accepté cette mission et je ne pourrai jamais rentrer à Stockholm si je ne sais pas au fond de moi que j'ai fait tout ce qu'un homme pouvait faire pour sauver autant de juifs que possible, avait-il déclaré à un de ses collègues de la légation suédoise. Après l'entrée des soviétiques dans la ville, Raoul Wallenberg fut emmené par des soldats russes. C'était donc le 17 janvier 1945. Il avait alors 32 ans et jamais, plus jamais, on ne le revit. Dans les premières années qui suivirent sa disparition, les soviétiques prétendirent ne connaître personne du nom de Raoul Wallenberg. Et en 1956, les soviétiques déclarèrent finalement qu'il était décédé en prison en 1947. Les circonstances de son arrestation et de son décès, ou les raisons du refus du régime soviétique de révéler plus de détails sur ce qui était advenu de lui, n'ont jamais été connues. Le 26 novembre 1963, Yad Vashem à Jérusalem décerna à Raoul Wallenberg le titre de juste parmi les nations. Tom Lantos, un juif sauvé par Wallenberg, lui rendit hommage en ces mots. Durant l'occupation nazie, ce jeune et héroïque diplomate délaissa le confort et la sécurité dont il jouissait à Stockholm pour voler au secours de ses frères humains dans l'enfer qu'était devenue la capitale hongroise. Il n'avait pas grand-chose en commun avec eux. Il était luthérien, eux étaient juifs, il était suédois, eux hongrois. Pourtant, faisant preuve d'un courage et d'une créativité hors du commun, il sauva la vie de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en les plaçant sous la protection de la couronne suédoise. Il est devenu l'une des figures les plus célèbres parmi les justes des nations. Going Boacharabi avec Atli Laila. La communauté juive de Porto au Portugal vient d'annoncer que le premier musée de la Shoah de la péninsule ibérique a été inauguré ce 20 janvier dans le quartier de Campo Alegre, donc à Porto. L'établissement vise à éduquer mais aussi à dépeindre la vie des juifs avant l'invasion nazie de l'Europe. Ainsi, le musée dépeint la vie juive avant la Shoah, le nazisme, l'expansion nazie en Europe, les ghettos, les réfugiés, les camps de concentration, de travail et d'extermination, la solution finale, les marches de la mort, la libération, la population juive de l'après-guerre, la fondation de l'État d'Israël, vainqueur ou affamé, le juste parmi les nations. Le musée comprend notamment un centre d'études, un cinéma ainsi qu'une salle de conférence et proposera également des expositions. Le musée investira dans l'enseignement, la formation professionnelle des éducateurs ainsi que dans la promotion d'expositions en encourageant et en soutenant la recherche. Le 27 janvier, pour célébrer la Journée internationale du souvenir des victimes de la Shoah, le musée sera donc visité par des étudiants de la région de Porto, donc au Portugal, la deuxième plus grande ville après Lisbonne. En France, la juste parmi les nations, Madame Odile Duberger, sauveuse de la famille Polnareff, du chanteur Michel Polnareff, vient de décéder. Cette citoyenne de Nérac, en Lot-et-Garonne, âgée de 97 ans, revendiquait sa participation à la réalisation de faux papiers fournis à de nombreux juifs durant l'occupation, dont la famille de Michel Polnareff. Elle avait reçu à ce titre la Légion d'honneur en 2008 et candidatée à l'inscription comme juste parmi les nations. Ses obsèques ont donc eu lieu lundi à Nérac. Bien sûr, cette distinction me fait plaisir, mais je ne suis pas aussi enthousiaste que si je l'avais eue il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans que j'aurais dû l'avoir, à une période où des personnes que j'ai pu aider étaient encore là pour témoigner. Aujourd'hui, avait-elle dit, j'ai 84 ans et il n'y a plus personne. Alors oui, je suis contente pour mes petits-enfants, mais moi, j'en ai fait mon deuil. Tel était le témoignage d'Odile Duberger, Odile Perella, de son nom de jeune fille, alors qu'elle venait d'être élevée chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en 2008. Un membre de sa famille nous a fait savoir qu'Odile Duberger était donc décédée cette semaine à l'âge de 97 ans. La Légion d'honneur lui avait été accordée en témoignage de la reconnaissance de la nation pour des fêtes qui remontent aux années de l'occupation allemande, lorsque la jeune Odile Perella a sauvé des vies en faisant de faux papiers, étant alors au service comptabilité et aux cartes d'alimentation de la mairie de Nérac. Ce sont 117 personnes qui auraient bénéficié de ces faux papiers. Des juifs, parmi lesquels donc les parents du chanteur Michel Polnareff, qui est né à Nérac en 1944. L'artiste s'était d'ailleurs déplacé en juin 2007 à Nérac pour remercier Madame Odile Duberger. Il est vrai que cette distinction, je l'ai toujours voulu, mais chaque fois, malgré des personnes influentes pour m'aider, cela échouait. Je n'étais jamais dans le bon contingent. Aujourd'hui, c'est une réalité, commentait encore Odile Duberger à propos de la Légion d'honneur en 2008. Cette dernière avait également déposé un dossier numéro 17862 pour l'obtention de la médaille des Justes parmi les nations. Elle devait être nommée juste à la fin de l'année 2008 à Paris. Monsieur Gilbert Tornumann, président de la communauté juive du Lot et Garonne et ministre du culte, lui en avait fait la promesse lors d'une cérémonie où elle s'est vue remettre son diplôme d'inscription au Consistoire central de France. Mais son nom ne figure pas sur les listes de justes parmi les nations que nous avons pu consulter. C'est encore Raymond Pichon, commissaire de police à Nérac à partir de 1941, dont le nom figure dans la liste des justes parmi les nations du comité Yad Vashem, qui fournit des faux papiers réalisés par Odile Perella, employée à la mairie de Nérac, à Leib Polnareff, le père donc de Michel, Leib Polnareff, réfugié juif de Paris. Son fils, Michel Polnareff, le chanteur, naîtra à Nérac le 3 juillet 1944. C'est ce qu'on peut lire sur un site spécialisé. La communauté juive du Lot-et-Garonne lui a remis un diplôme il y a quelques années, ainsi qu'une association qui travaille aussi sur le sujet des justes, a précisé donc Gabriel Tornumann, le rabbin de la synagogue d'Agen.
Onaheim bin ich jung geblieben, es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Weileriat. Ich bin a Vreimu, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, wiesen teut, a reinend Füße, verlackenen a Bräut. Oi, oi, ich vernischt auf Marken wie jene Prostejatten. Zip nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mechaie, wenn ich tappe so Magnat. Ich bin aber immer gar auf Euleriat. In der Fremd nicht gehabt zum Leben, gebeten Bräut an Ormer pflegt noch geben, nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn, es wächst a Ganef, es ist mir Kuhem geworden, a Ganef bin ich nur a Weileriat. Ich bin a Vreimel, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. A jatta kleiner, a rein in Kutschement, a reus a massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich vernischt auf Marken wie jene Prostejatten. Zypnor bei karge, schmutzige Magnaten. Hob lieber Menschen am milden Anasprat. Ich bin a Vreimel, gora Woyleriat. Schoi nicht lang, wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Fisse Meuren. Nur ein Bakosch, ich wollt, als sei gewollt. Noch mein Teut in a Tag ertrieben. So läuft mein Matzewe stehen geschrieben. Mit Eus, Jes, Größe und von Gold. Da liegt der Vreimel, der feigste Marwicher. A Mensch, a größer gewein wollt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein er will. Ai, ai, wenn über ihm wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt a Vreimel jener Weiler jahrt. Gewacht am Mammes Augen, wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen, wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt a Vreimel jener Weiler jahrt.
C'était bien sûr Chava Halberstein. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a appelé en novembre 2020 à combattre la haine dans le monde en recevant lors d'une cérémonie virtuelle le prix Theodor Herzl attribué par le Congrès juif mondial pour la première fois à un chef des Nations Unies. Parallèlement au Covid-19, un autre virus s'est propagé, l'antisémitisme et la haine sous de nombreuses formes, a-t-il relevé, en qualifiant d'effrayant le fait de voir aujourd'hui en marche des néo-nazis et des suprématistes blancs. Nous devons lutter ensemble contre la haine sous toutes ses formes, a réclamé Antonio Guterres, en évoquant des victimes qui peuvent être des juifs, des musulmans, des migrants ou encore des réfugiés. Le prix annuel Theodor Herzl récompense, je vous le rappelle, des personnalités travaillant à la promotion des idéaux de Theodor Herzl en faveur d'un monde plus sûr et tolérant à l'égard des Juifs. Parmi les récipiendaires figurent la chancelière allemande Angela Merkel, qui l'a reçue en 2019, et le président élu américain Joe Biden, qui l'a reçue en 2016. On va parler maintenant de collaboration et d'espionnage avec le passé nazi de Coco Chanel. Gabrielle Chanel, en couple avec un baron allemand durant la Seconde Guerre mondiale, aurait, selon certains documents, été recrutée dès 1940 comme agent secret du régime nazi. Dans le roman de sa longue vie, il y a au moins un chapitre que la célèbre couturière Coco Chanel a voulu occulter, à savoir sa liaison pendant la guerre avec un baron allemand et surtout sa collaboration avec les services d'espionnage SS. Une page longtemps méconnue de l'existence de la grande mademoiselle, à tel point qu'à sa mort en janvier 1971, la presse n'en fait carrément pas mention. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Chanel fermera sa maison de couture et se retira sur les bords du lac Léman où elle vécut pendant 15 ans des royalties que lui rapportait son parfum. C'est ce qu'écrit ainsi dans la nuit du 10 au 11 janvier, l'agence France Presse qui vient d'annoncer son décès au monde entier. La réalité est bien différente. Certes, après avoir présenté au début de la guerre une collection patriotique bleu, blanc, rouge, Gabrielle Chanel choisit de fermer l'atelier de la rue Cambon quand commence l'occupation, mais elle laisse ouverte sa boutique de parfums et, loin de prendre ses quartiers en Suisse, continue à vivre en plein cœur de Paris, occupé dans l'immense suite de l'hôtel Ritz, loué depuis 1937. Et à 57 ans, elle tombe amoureuse d'un attaché d'ambassade allemand, Hans Günther von Dicklage, de 13 ans son cadet. Sans doute un espion, ils vivent leur liaison dans l'hôtel prestigieux, partiellement réquisitionné par le régime nazi, pour abriter la Luftwaffe et son chef, le maréchal Göring. Surtout, elle fait intervenir les autorités allemandes pour récupérer la propriété de ses parfums, cédés avant-guerre à des industriels juifs. Mais c'est un échec. Les frères Wertheimer, c'est leur nom, réfugiés aux États-Unis, déjouent son plan. Là, Coco Chanel se lance dans un nouveau projet encore plus fou, à savoir arrêter la guerre, en tentant de négocier en 1943 une paix séparée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, une opération tout à fait abracadabrante, baptisée Model Hut, chapeau de couture, qui la conduit deux fois à Berlin en avril 1943. Elle va en discuter les détails directement avec Walter Friedrich Schellenberg, patron des services de renseignement de la SS. Elle connaît bien, plaît-elle, le premier ministre britannique Winston Churchill, rencontré grâce à son ancien amant, le duc de Westminster, l'homme de confiance de Himmler, séduit. Mais l'opération, là encore, vire au fiasco. Et à la libération, Coco Chanel est arrêtée, mais relâchée quelques heures plus tard sur une intervention précisément de Winston Churchill. Elle préfère toutefois prendre le large en Suisse, dans un palace de Saint-Moritz. Elle ne revient de cet exil qu'en 1953, à l'âge de 70 ans. Il faut donc attendre le livre de Madame Edmond Charleroux, L'Irrégulière ou mon itinéraire Chanel, publié chez Grasset en 1974, trois ans après sa mort, pour que ce pan discret de son existence soit en partie révélé. Le journal L'Express en 1995 et Der Spiegel en 2008 lèvent un peu plus le voile sur le passé de la dame au canotier. En 2011, le journaliste américain Hal Vaughan va plus loin dans les révélations avec Sleeping with the Enemy, Coco Chanel Secret War, au lit avec l'ennemi, la guerre secrète de Coco Chanel, une biographie fruit de trois ans et demi de recherche dans les archives américaines, françaises, allemandes, britanniques, italiennes et polonaises. Document à l'appui, le journaliste Vaughan écrit qu'elle est recrutée dès 1940 comme agent secret du régime nazi, nom de code Westminster. Elle est aussi une anticommuniste forcenée et une antisémite confirmée, affirme-t-il. Hal Vaughan donne dans son livre des preuves indubitables d'une compromission grave de Mademoiselle Chanel avec les Allemands, déclare alors Edmond Charleroux, assurant toutefois de ne l'avoir jamais entendu tenir des propos antisémites. Je ne l'aurais pas supporté. À la publication de l'ouvrage, le groupe Chanel, toujours aujourd'hui détenu par la famille Wertheimer, dément aussi fermement que Coco Chanel ait été antisémite, tout en soulignant que son rôle pendant la guerre conserve, et j'en suis certaine, une grande part de mystère.
זאת שברכה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לי לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו משלט רחוק
מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהעם הבא תחזור אלינו את יודעת לא הייתי שר לך סתם כך הנביאים כבר מתו ומי שנבא לי חלליות עפות למעלה ולמטה פתאום זה שיר דגועים כמו שנדמה לי בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך סמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך סמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו
Et vous aurez sans doute reconnu Shlomo Artzi. Il y a quelques jours, le quotidien flamand de Standard rapportait que dans la revue mensuelle financée par le Parlement flamand et pour célébrer les 50 ans de cette importante institution de notre pays, deux des plus importantes figures de la collaboration avec les nazis sont mises à l'honneur. Il s'agit d'Auguste Borms et de Staff de Klerk. Staff de Klerk a été l'un des premiers soutiens des mouvements nazis depuis les années 1930 jusqu'à sa mort en 1942. Quant à Auguste Borms, il refusa jusqu'au moment d'être fusillé en 1946, de renier le nazisme. 76 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, les enseignements de la Shoah n'ont pas encore été tirés. Monsieur Johann Benizri, le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique et vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial, déclare ce qui suit. La mise à l'honneur de ses collaborateurs du régime nazi est scandaleuse. Les Belges juifs et tous les démocrates en ont assez. Nous souffrons déjà de nous soucier de notre sécurité et de voir nos enfants exposés à un antisémitisme de plus en plus débridé. La mémoire de la Shoah est le devoir de tous les citoyens. La distorsion et le déni de la Shoah sont en augmentation, notamment sur le net. Nombre de jeunes Belges ne connaissent pas l'histoire de leur pays. On ne peut lutter efficacement contre les discours de haine lorsqu'on célèbre un héritage honteux. Ce double message est totalement délétère. La Belgique doit faire la lumière sur le rôle des collaborateurs et complices du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Cette terrible histoire est porteuse d'enseignements qui résonnent d'autant plus aujourd'hui que nous vivons une période difficile et que de nombreux citoyens cherchent des réponses simples et des boucs émissaires à la crise sanitaire. Le CCOJB appelle donc au réveil de la société civile belge et du monde académique pour dénoncer de concert ce type de dérive. Il serait donc judicieux pour la Flandre de sensibiliser les jeunes générations aux questions de responsabilité citoyenne au lieu de glorifier des anciens collaborateurs nazis. Autre chose maintenant, un avion a atterri il y a quelques jours à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, depuis Addis Abeba en Éthiopie, avec à son bord 169 Olim d'Éthiopie, donc des émigrants qui transitaient dans des camps dans la région de Gondar. Il s'agit en fait du cinquième avion qui arrive dans le cadre de l'opération visant à ramener les derniers juifs encore en Éthiopie. D'ici la fin du mois de janvier, 2000 juifs d'Éthiopie qui attendaient parfois depuis des dizaines d'années pour rejoindre leur famille auront ainsi été ramenés en Israël.
Ma 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 ma, 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 ma 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 ma,